Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Je m'appelle Briac Agresti Biagi, c'est ça que vous voyez sur mon livre, et je suis avec Scott Vince.
Hello darlings, et un big up à tous les gens qui me contactent maintenant, qui me demandent des cours, et un big up à Otman, qui est parti au Québec être boulanger pour pouvoir faire du stand-up là-bas.
Ah, c'est un chemin compliqué là.
Je sais pas, franchement, c'est peut-être, si c'est un mytho, c'est très cool, parce que j'étais là, waouh, franchement, waouh, force à toi et tout, mais tu peux être boulanger en France, t'as pas besoin d'aller là-bas, et pour galérer pour faire du stand-up, tu peux galérer en France,
ici, hein.
Mais c'est cool, la démarche, moi c'est ce qu'il m'a dit, maintenant je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce qu'il a voulu me faire plaisir, je sais
pas. C'était via les réseaux, ou c'était quelqu'un que tu coachais déjà?
Non, c'était via Insta, ouais. Donc
mais
ça,
tu peux pas savoir le nombre de gens qui démarrent grâce à Stand Up France ou qui s'accrochent grâce à Stand Up France. C'est trop cool. Merci quand vous partagez ces expériences-là. Ça justifie tout ce qu'on fait. C'est toujours sympa de se dire, ah oui, j'arrivais pas, puis j'ai écouté votre podcast. Ça... On sait pas quel épisode ça les déclenche, mais au moins ça déclenche.
C'est vrai.
Donc, tu étais en train d'amorcer une histoire en off et je me suis dit, mais non, mais il faut que tout le monde entende cette histoire. Alors, je sais qu'elle implique le site OnlyFans, mais je sais que ça, vas-y.
Alors, donc ça, l'histoire a commencé parce que je te racontais que j'étais très content qu'une créatrice qui est drôle, que je suis depuis très longtemps, a décidé de se mettre à OnlyFans, donc j'étais content. Comme je n'ai pas les moyens, j'ai fait une recherche sur Internet et j'étais encore plus content parce que je suis tombé sur ces photos gratuites, parce que je ne me voyais pas aller faire le petit... envoyer un message, oui, voilà, j'ai deux enfants, une pension alimentaire, trois chiens, ça coûte cher des croquettes, est-ce que tu peux m'envoyer tes photos de cul gratuites?
Alors, c'est bizarre, je vais te dire, je vais le rapporter au cas de Stand Up France. Parce que j'ai eu ces conversations à ce moment-là avec des gens qui disent, j'ai écouté tous les podcasts, mais j'hésite pour le livre. mais je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas parce qu'il y a 118, 119, 120 podcasts, il y a 500 articles sur le site, tu as tout lu, tu as tout consommé et tu te dis, ah, ce nouveau truc où il faudrait peut-être payer 25€, je ne vais pas le prendre.
C'est très drôle, j'hésite pour le livre, mais merci de me le dire.
Non, mais c'est une bonne indication et je me rends compte que c'est très, très dur l'acte d'achat. Il y a deux choses. Si je ne m'étais pas rendu compte à quel point un message doit être martelé pour être compris. Parce que le fait qu'il y ait un livre de disponible sur le stand-up, les gens ne le comprennent pas. Tu vois, il y a un éloignement. Et le fait que ce soit moi qui ai écrit le livre, c'est encore un autre niveau. J'ai des gens qui me disent, est-ce qu'il est bien ce livre et tout. Je fais, je vais pas te dire que non, je l'ai écrit.
Ben oui.
Et donc voilà, toi, tu as consommé pendant des années gratuitement cette créatrice. Et là, elle bascule sur OnlyFans. Donc, elle fait un contenu plus adulte.
Ouais.
Tu trouves les trucs gratuitement.
Ouais.
Et ça, c'est une satisfaction. Alors.
Ah oui, parce que tout le monde est content. Parce que j'imagine qu'elle se fait plein d'argent dessus. Moi, je n'ai jamais payé pour ce contenu-là. Et donc, j'étais content de continuer à ne pas payer pour ce contenu. Mais c'est drôle parce que finalement, non, mais je suis déçu d'OnlyFans. Je suis déçu d'OnlyFans parce que je n'ai pas été embauché. Voilà.
Il y a un mec c'est ça que je voulais
entendre. C'est la grande histoire d'OnlyFans. C'est que quand tu t'abonnes, l'idée, c'est... Bon, là, waouh, on va rentrer dans le... J'ai dû me renseigner. Tu t'abonnes à quelqu'un, donc si tu t'abonnes à cette créatrice, par exemple, son premier abonnement, c'est 10 $ par mois.
D'accord, et 10 $, tu t'engages donc à verser chaque mois 10 $ avec une contrepartie.
C'est ça, donc des photos de son cul ou de je ne sais pas. Bon.
C'est, je ne crois pas que ça a été, à la base, ce n'est pas créé. Quoi, c'est
non, ce n'est pas créé que ça, ça a été détourné.
Ça pourrait être une chanson par mois, tu vois, elle pourrait être...
Donc Patreon, ça, à la base, c'était un truc dans le genre de Patreon où quand tu donnes de l'argent à ce créateur, tu as des trucs en exclusivité. Je ne sais pas d'ailleurs comment la bascule s'est faite pour ça.
Ah, j'ai vu, tu sais, je regardais un mec qui s'appelle Daniel Mac, qui fait sur les réseaux sa phrase d'accroche. Il va voir des mecs qui ont des nanas avec des super voitures. Il leur dit, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites comme métier?
Ouais, je le connais, oui.
Bah, Daniel Mac, à un moment, et toi, ce mec... Gajard, une Bugatti, un truc énorme. Et le mec, il dit, je suis CEO d'OnlyFans.
Bah oui.
Et là, tu te dis, ouais, toi, tu as dû te mettre bien avec ce site.
Bah oui. J'ai une cliente qui me demandait d'écrire des sketchs. Elle aussi, il gagne sa vie sur OnlyFans.
Dans le domaine adulte?
Oui. Donc, elle a beaucoup d'un grand following sur Insta. C'est des trucs, voilà, c'est vraiment, tu sais, plus, genre, plus refait que ça, tu peux pas. Et, mais c'est une niche de marché, genre, la meuf, c'est les fesses, les seins, les lèvres, tout le maquillage, le mec, la bagnole, les
Mais on
bijoux.
comprend que ça peut, voilà, que ça adresse
Ah oui.
quelque chose.
Ah
Et
oui, c'est
souvent, des
ça.
fans de cette niche, s'il y a des gens qui sont prêts à payer, ça peut te faire. C'est vrai que tu as 200 fans qui payent 10 euros par mois, tu te fais
Ben oui,
1000 euros, 2000 euros par
tranquille.
mois tranquille.
Ah oui.
Tranquille, ça reste de la création de contenu, il ne faut pas se leurrer. Hein.
Ah oui, y a quand même du boulot. Et donc, il y a un mec qui m'a approché sur Fiverr, et l'idée, c'était de travailler pour une agence de modèles de OnlyFans. Et moi, j'étais censé jouer le rôle d'une jeune Brésilienne de 19 ans, un truc comme ça. Et donc, parce que quand tu es abonné, déjà, tu peux t'abonner sans payer. Et là, tu reçois des messages. Ah, coucou, comment ça va? Tu veux voir ma petite photo? Donc, tu reçois une photo qui est floutée. Et pour débloquer la photo, tu dois payer. Et donc, chaque
D'accord.
fois, il t'envoie des photos et tu dois payer pour. Mais le truc, le système, c'est qu'il y a des gens qui travaillent, qui se font passer par le modèle en question, qui vont engager la conversation avec les mecs. Et le but, c'est de faire en sorte que le mec se sépare de le plus d'argent possible.
C'est un peu l'arnaque à la Nigériane qu'il y avait avant, tu sais, c'était. Je sais pas si tu as connu ça, c'est le scam nigérian en fait. C'était ces gens qui te scammaient, mais qui étaient tous situés en Afrique et qui attaquaient ben, le marché européen en te faisant croire des
Mais oui,
trucs, que tu allais être
là, c'est...
condamné par un tribunal.
Ah oui, c'est un peu ça le truc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était la justification que le mec m'a donnée. Donc, il fallait montrer dans l'entretien d'embauche que tu avais zéro scrupule, que tu t'en fous parce que tu touches la commission, et que donc le but ultime, c'était de vendre une heure de PlayStation avec la fille pour que les mecs jouent une heure à la Play avec la fille à 1000 dollars. À 1000 dollars. Et donc, le mec, il m'expliquait que comment c'était éthique ce qu'ils font. Il dit, ben voilà, c'est tout à fait éthique parce que le client... Il paye pour avoir cette conversation avec cette fille ou avec ce gars. Et donc, il paye, mais il croit qu'il est en train d'avoir cette conversation. Et du coup, l'échange est complet. Parce que finalement, on s'en fout si c'est la vraie fille ou
Ouais, il y a
pas.
l'effet placebo, quoi. Il y a l'effet
Ben
où
oui, c'est ça. Et donc, leur justification, c'était ça. Tant que tu penses que c'est la vraie personne en face et que tu es en train de tchatcher et qu'elle s'intéresse à ta vie et que tu lâches un max de fric. C'était waouh. Et moi, c'était cool parce que dès que j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait, après, tu es obligé, pour en savoir plus, tu es obligé d'être d'accord et de faire genre d'être d'accord avec ça. Et c'était très drôle. Voilà, c'était.
Et tu n'as pas donné suite à ça? Ou
Non.
c'est eux qui n'ont pas donné suite?
Ah, ils m'ont pas donné de nouvelles. Moi,
Ah voilà.
j'étais prêt à voir jusqu'où ça va. Mais évidemment, j'aime pas travailler. Pour des gens que je ne connais pas, en espérant peut-être, comme quelqu'un m'a demandé d'écrire un spectacle pour lui, ah, écris-moi un spectacle, tu seras payé avec les droits de la SACD. Non, merci.
Alors ben ça, c'est intéressant qu'on
Ben
bascule
oui.
de. On peut basculer d'OnlyFans à la SACD, ça me plaît beaucoup. Non, mais comme ça, on a tous les cas de figure, on va tout rappeler ce que c'est. On vous a rappelé ce que c'était OnlyFans, maintenant on va vous rappeler ce que c'est la SACD. La SACD, donc, c'est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Ce n'est pas la seule société de perception et de rétribution de droits. Donc, eux, ils sont là, ils perçoivent quand il y a un spectacle, il y a des droits qui sont perçus par cette société et ils les reversent aux différentes personnes qui peuvent y prétendre. Donc, en l'occurrence, c'est les auteurs et les metteurs en scène. On va être très clair, si vous êtes un peu sérieux en stand-up, vous seriez bien avisé d'être dans une de ces sociétés et en particulier la SACD. Donc, c'est une inscription qui se fait, vous allez sur le site de la SACD. Si vous avez le moindre souci, vous appelez la SACD. Et ça fait partie de leurs attributions, vous expliquer comment ça marche et dans votre cas de figure, qu'est-ce que vous devez faire et est-ce que c'est quoi la meilleure façon d'y aller. Et donc, la SACD, si demain je joue mon spectacle et que soit j'ai tout écrit et je n'ai pas de metteur en scène, et dans ce cas-là, c'est assez simple, 100% des droits vont me revenir. Et donc, si je vais dans une salle où il y a 100 places, il y a un pourcentage des sous de la vente de billetterie qui va me revenir via le droit d'auteur. Maintenant, il y a le cas où j'ai écrit mon spectacle, pardon, mon spectacle, c'est Scott qui a écrit 100% du spectacle. Quand je vais jouer mon spectacle au Zénith, qui a 10 000 personnes, on va regarder les droits d'auteur, on va dire maintenant Briac, il a 0% de droits d'auteur, donc tous les droits d'auteur, on va automatiquement les encaisser et hop, les faire basculer sur le compte de Scott.
Ouais.
Et ça sera pareil pour la mise en scène, donc ça sont des choses qui se discutent. C'est-à-dire que peut-être qu'on va commencer avec Scott en disant Scott, c'est ce que tu pourrais intervenir sur le spectacle, je te laisse 20% des droits d'auteur parce que tu vas m'améliorer le spectacle. Puis on va jouer, on va dire, on va enlever la moitié de sketch, il va manquer des nouveaux, on va se dire non, on n'est plus dans le cas où c'est 20% des sketchs sur ce spectacle-là. Maintenant, quand on le joue, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un 50-50. Et il va me dire que je suis plus à l'aise si c'est 50-50 parce que ça représente plus mon travail.
Ouais.
Oui, c'est une discussion, il n'y a pas d'amertume. Et moi, je peux très bien dire non, non, je pense que tu fais en fait que 20%. Mais c'est voilà, une vraie conversation. Et cette conversation, il faut l'avoir en amont du projet.
Ouais.
Et il ne faut pas hésiter à l'avoir par la suite si vous voyez que les choses changent.
Mais oui, et surtout donc il faut que la relation soit une relation de confiance parce que si bon si l'auteur t'aide avec tes sketchs, il faudrait que pour qu'il soit assez rémunéré par la SACD, il faut que tu joues beaucoup. Mais rien ne t'empêche de te dédier à la pêche sportive et de ne plus jamais faire de stand-up. Tu es là avec tes blagues, tu as travaillé sur un truc et la personne ne le joue plus jamais. Donc, c'est un s'engage à travailler, à avancer le travail, mais l'autre, il s'engage à travailler par la suite.
Ah, ça, c'est un cas de figure. Mais il peut y avoir l'autre cas de figure où vous venez voir Scott, vous lui dites, écoutez, moi, je veux que tu crées la moitié de ton spectacle et tu auras la moitié des droits d'auteur. Mais Scott peut dire, OK, mais pour commencer le travail, j'ai besoin de 5 000 euros pour, voilà, pour vivre, pour faire. Donc, ça sera, par exemple, sous forme de prime à l'écriture.
Ouais.
Et ça, c'est un montage. En fait, tout le monde pense au montage gratuit, non, tu as tes droits d'auteur et tout, mais. Il ne faut pas oublier qu'on peut payer un auteur, qu'on peut le payer en argent comptant. Moi, je ne fais pas de spectacle où c'est que du droit d'auteur, je ne le fais plus.
Ouais.
Je vois pas pourquoi je ferais ça.
Bah oui.
Dès le début, on définit une prime à l'écriture, un truc comme ça, un budget, parce que je sais que ce n'est pas juste moi devant mon ordinateur qui vais écrire pendant des semaines. C'est des centaines d'échanges de mails, de conversations, de réunions. Donc ça aussi. Vous pouvez le prendre en compte, il peut y avoir un échange financier. Et pareil, dans cet échange financier, vous pouvez aussi envisager le cas. Et moi, ça m'arrive, par exemple, si je fais du coaching, je fais payer assez cher le coaching. Par contre, je n'interviens jamais sur les droits d'auteur.
Ouais.
Si je redresse un sketch, une blague et tout, dans le cas de ce coaching spécifique, je ne me considère pas comme auteur, je me considère comme coach. Et je ne veux pas prétendre à ça, mais je l'ai fait payer très fort en amont.
Ouais.
Le fait de renoncer à ça, ce savoir-faire, fait de dire non, je renonce à cette partie artistique, mais par contre, ça a un prix.
Ben oui, moi c'est pareil. Mais moi je me prends pas très cher au coaching. Oui, c'est ça, ce qui se crée ensemble sur le moment, bah, bon, ça appartient. En plus, toi, tu mets ton cerveau à la disposition de la personne avec qui tu travailles. Bon, c'est quelque chose du moment que lui ou elle n'aurait pas trouvé sans toi, mais que toi n'aurais pas trouvé sans lui ou sans elle. Et du coup, c'est un peu comme une étincelle qui se fait. Et voilà, moi, tout ce qu'on fait en session, ça appartient à l'artiste qui va les faire ensuite. Et quand ça marche, je suis très content pour eux.
Et c'est pareil si demain vous avez un camarade stand-upper avec qui vous écrivez régulièrement. Ne laissez pas ce petit ver dans la pomme de savoir à qui sont les droits, pourquoi, pas les. Parlez-en clairement. Si vous pensez que c'est un travail où chacun y trouve à 50% de son compte, vous écrivez pour lui, il écrit pour vous, vous remettez à droit. Voilà, là on est dans une neutralité.
Ouais.
Et si vous pensez, par exemple, demain vous lancez votre spectacle et vous dites à votre pote, bah, j'aimerais que tu me mettes en scène, que je fasse ci, ben là, définissez des pourcentages, un mode opératoire pour que personne ne se sente lésé, personne n'y aille à reculons. Parce que c'est ça le risque aussi. Quand quelqu'un se sent pas bien dans son poste, ben, il va hésiter à vous donner les blagues, il va hésiter à vous faire les retours, il va se dire non, mais ça va, je vais pas, je vais la garder pour moi. Alors
Ouais.
qu'au contraire, un auteur, il doit y aller 100%, il doit aller pour moi full blast, metteur en scène.
Bah oui.
Et ça fait la parenthèse, metteur en scène aussi. Je sais que vous posez beaucoup la question du rôle du metteur en scène, en particulier en stand-up. Ça existe, la mise en scène en stand-up.
Ouais.
C'est très important, en particulier dans le cadre du spectacle. Et un metteur en scène, il peut vous corriger des blagues. Il peut vous dire, non, cette blague, tu devrais la dire dans ce sens-là, comme ça, rajouter ce mot. Il peut vous donner des idées. C'est pas pour ça qu'il va prendre dans vos droits d'auteur. Dans la mise en scène, il y a certaines latitudes pour modifier le texte, pour vous donner des indications précises et modifier le texte sans que cela soit compté dans les droits d'auteur. Ça fait partie des attributions du metteur en scène.
Ouais.
On s'est beaucoup renseigné sur ça, nous, avec les différents auteurs, pour savoir jusqu'où ça allait. Donc, voilà. Et parce qu'il y en a qui sont très paranoïaques sur leurs droits. Parce que quand tu es auteur, tu sens que toute ta vie, les gens veulent t'enlever tes droits.
Bah oui.
Et c'est vrai que le metteur en scène aussi, il a des droits, il mérite d'avoir d'être récompensé, d'être rémunéré. Mais il faut bien qu'on définisse ce qui fait partie de ses attributs et quand c'est qu'il dépasse ce truc-là et quand c'est quand il doit avoir des droits d'auteur. Mais à chaque fois, c'est une discussion qu'il faut avoir très clairement. Et c'est pas grave si vous l'avez 10 fois et il faut qu'à la fin, tout le monde se sente bien.
Ouais. Mais c'est drôle, j'ai eu plein, quelques exemples des gens qui détestent leur metteur en scène. Et que des fois, t'es obligé, quand t'es plus que comédien ou quoi, t'es là et tu le supportes pas et lui te supporte pas et que c'est un délire.
Qu'est-ce que tu veux que ça donne?
Ben oui,
tu veux que ça avance?
Ça, c'est naze, mais des engueulades et tout. Et j'en ai vu une fois, j'allais donner un cours de stand-up, justement, on avait dit, bon, on arrive un peu plus tôt pour rattraper les heures parce qu'il y avait un férié ou quoi. Et là, il y a un mec et son metteur en scène. Mais un scandale. Le metteur en scène a fait un scandale. Oui, parce que, machin, moi j'ai fait un AVC. Et toi, t'es comme ci, comme ça. Et mon travail et tout. Et toi, j'étais là comme une poule devant un couteau. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Et le monsieur, il s'excusait. Je disais, non, mais il est toujours comme ça. C'est mon metteur en scène. Il fait ça tout le temps. Et moi, je dis, waouh.
Non, c'est pas ça.
Oui, c'était chelou, ça.
Mais il faut vraiment, le metteur en scène, il faut savoir ce que vous allez chercher chez lui. Et il faut le trouver.
Ouais.
Et c'est pas grave si vous changez. Il y a des metteurs en scène, je connais des artistes qui bossent avec des metteurs en scène, qui sont vraiment juste dans le conseil, dans l'encouragement et qui donnent juste l'impulsion qu'il faut pour aller au bout des blagues.
Ouais.
Et cet artiste-là a besoin de ça. Donc, c'est très bien que ce soit cette personne qui se mette en scène.
Ouais.
Et il y en a d'autres qui arrivent avec « j'ai des idées, mais je n'ai pas de concept ». Alors, eux, ils ont besoin de plus structurer le spectacle, ce travail de structuration, ce travail. Voilà, il y en a d'autres qui ont besoin de répétition. Tu as les metteurs en scène qui sont très forts pour te faire répéter. À chaque fois, vous pouvez avoir une problématique et le bon metteur en scène qui vient résoudre ça à ce moment-là. Mais moi, une metteur en scène conflictuelle, je ne vois pas où ça peut mener parce que vous êtes un duo.
Bah oui.
Indexé au succès, c'est-à-dire que chacun sera mieux payé si ça se passe bien.
Bah oui.
Et moi, je ne me vois pas me disputer avec mon metteur en scène. Hein.
Bah oui, mais c'est évident. Après, il y a un truc que moi, j'observe, c'est que quand tu es artiste, stand-upper, tout est ta responsabilité. Tu es manager, au moins au début, tu es manager, tu es tout. Et quand tu vas chercher un prof ou un coach ou un metteur en scène ou un machin, c'est, oui, il a quelque chose à t'apporter, oui, il a un savoir-faire, une expérience ou elle à t'apporter, mais la décision est la tienne. Et il ne faut jamais renoncer à ta propre responsabilité de ce que tu fais. Moi, je dis aux gens, quand ils viennent, quand j'ai pris en cours, ils me disent, des fois, ils ont des attitudes comme s'ils étaient à l'école. Je dis, non, à l'école, toi, tu dois faire plaisir à ton prof parce qu'il te donne une note et de cette note va dépendre ton avenir. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, moi, je travaille pour toi. Donc, tu me dis, toi, ce que tu as envie de faire et ce dont tu as besoin. C'est comme si tu es un sportif de haut niveau, tu ne vas pas voir le masseur et tu dis, masse-moi où tu veux. C'est masse-moi, j'ai un problème au genou, au truc, à tel muscle, à tel machin. Et c'est au professionnel de conseil ou de coaching de s'adapter et de répondre à ta demande. Et ça, il faut faire évoluer les esprits là-dessus.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pudique au niveau de l'argent. Dans l'échange d'argent, quand tu es un élève, tu dis, écoute, tu vas payer telle somme. Et je vais t'expliquer pourquoi je te fais payer telle somme. C'est pas parce que j'aime pas le stand-up, mais c'est parce que j'aime bien l'argent.
Bah oui.
Et j'ai besoin de cet argent-là pour te donner le meilleur enseignement possible.
Bah oui.
Et si je fais un stage, je vous le fais payer, mais c'est parce que c'est nécessaire pour moi, pour mon modèle économique, de faire ça. Et j'estimais que c'était ce prix-là qui était viable.
Ben oui.
Maintenant, une fois passé ça, j'ai un savoir-faire. Si toi, tu estimes que ça le vaut, on le fait. Si tu estimes que ça ne vaut pas, je comprends tout à fait. Il y a d'autres profs moins chers.
Ben oui.
Là, ça m'est arrivé pour une date en entreprise. Un grand établissement hôtelier à Marseille, très prestigieux, qui m'appelle pour la fête des collaborateurs. 180 personnes, 150, 180 personnes.
Ouais.
Et donc, me demande, ça vous intéresse? Je fais, écoutez, je suis en engagement à Paris, mais où je peux l'annuler et on peut faire ça. Et je donne mon tarif. Elle fait, ah non, 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 ça, c'est pas notre budget, tout. Je fais, c'est pas votre budget. Je fais, donc, ça sera pas moi.
Ben oui.
Je vais pas revenir, moi, sur le truc, c'est ça, ça vaut ça. Moi, je leur ai donné le numéro d'un de mes camarades,
Ouais.
qu'il fera 10 fois moins.
Ben oui.
Et si, et go, et lui, il est trop content, eux, ça leur va, et c'est dans son économie, c'est très bien, mais c'est. Moi, je peux pas faire plus que donner mon budget. Et voilà. Et si tu ne peux pas, comme tu vois, c'est un peu ce que disait Ardisson quand elle était virée de Céluit ou de Canal. Il disait, bah, ça sert à quoi d'être riche? Tu peux pas te payer Ardisson.
Mais
Là, c'était un peu le même truc. Je fais, ça sert à quoi d'avoir un grand hôtel, si tu vois, un grand truc d'événement, si tu peux pas te payer l'humoriste que tu voulais à ce moment-là?
oui, c'est ça, hein. C'est tout con. Et souvent, dans le cas des cours et des gens qui cherchent de l'aide, c'est un remplacement du temps qu'eux devraient passer à apprendre à lire. Par exemple, il y a 120 podcasts et 500 articles sur le site. Bah, une fois, si tu as déjà tout lu, tout écouté et bossé, bah, on peut t'aider beaucoup plus en beaucoup moins de temps parce que tu as fait le boulot toi. Si on va t'expliquer, bon alors, la technique micro, tu prends le micro comme si, tu fais comme ça, tu fais machin, bah oui, ça prend du temps. Et pourquoi est-ce que quelqu'un devrait te faire gratuitement ou pas cher alors que toi, tu n'as pas pris la peine de le lire? C'est pas pareil, oui, j'hésite pour le livre. Bon, bah, si tu hésites pour le livre, bah, hésite pour le livre. C'est pas
Ouais.
bien.
Et en mettant en scène, ouais, je vais vous donner quelques petits trucs que j'ai vu en mise en scène qui étaient trop chouettes. Ouais, j'ai eu Ali Bougueraba pendant un petit moment en mise en scène, donc le frère de Redouane Bougueraba.
Ouais.
Donc Ali, lui, il a été récompensé de Molière de la mise en scène.
Ben, bien.
Voilà, pour Yves Olivier. Bon, pas pour mon spectacle, hein.
Alors, je...
Ça serait génial, mais non, il a été récompensé. Donc, et j'ai jamais eu une mise en scène aussi douce que ça. C'était tellement simple. C'est
Ouais.
en gros, je jouais le spectacle.
Ouais.
Le soir après le spectacle, on parlait. Et on parlait vraiment de trucs perchés. Tu vois, on se racontait des histoires, des trucs de jeunesse, on rebondissait, les extraterrestres, les géants, tu vois, les trucs un peu ésotériques. Parce que c'était. Dans mes blagues, il y a beaucoup de trucs, un peu de théorie de la simulation, de choses comme ça.
Ouais.
Donc il allait dans mon sens. Il me dit, mais est-ce que tu as lu ce livre? Est-ce que tu connais ça, cette théorie-là? C'était trop bien. Il me disait, bah, demain, je te fais le retour. Donc, le lendemain, j'allais un peu plus tôt, il me faisait le retour, il me disait, ça, il faut les tirer, ça se joue pas comme ça, tu devrais faire ce personnage, il se fait un peu comme ça. Je jouais. Et le soir, on commençait la discussion. Le lendemain, le retour.
Ouais.
Et d'une douceur, et je voyais, c'est que je progressais parce qu'il y avait un mec qui me dit, non, ça, tu le fais en 2 minutes, tu dois faire en 6-7 minutes. Tu l'étends, tu l'étends. Et dès le premier jour, m'a dit, j'avais une partie dans un segment dans mon spectacle qui était une espèce de happening avec un journal. Mais ça, tu l'enlèves. Ça n'a rien à faire dans le spectacle. Et j'ai pas, tu sais, je me suis rendu coachable, j'ai pas challengé le truc. Je dis, oui, non, mais je pourrais. Je fais, ok, chef, hein, je l'enlève. Et j'avais peur du temps qui, tu vois, du temps de spectacle s'est enlevé. Il m'a dit, ben
Ouais.
non. Fais alors, si tu fais 5 minutes de moins, qu'est-ce que ça fait? Et au final, comme il me faisait étendre le reste, ça se voyait jamais dans la durée du spectacle. Et surtout, il m'a enlevé cette pression de me dire, il m'a dit, bah, tu fais 50 minutes, ça fait quoi au lieu d'1 heure, ça changerait quoi?
Oui.
Et moi, j'avais besoin à ce moment-là d'être rassuré dans ce sens parce que sur ce spectacle-là, j'étais pas totalement convaincu. Et donc, j'avais vraiment le metteur en scène qu'il me fallait à ce moment-là. Et c'était cool que ça marche aussi bien.
Ouais. Ouais, mais ça, c'est... Moi, j'avais posté un mème comme ça. Genre, moi, c'est l'image de Rocky au coin du ring avec plein de bleus dans la gueule, etc. Il y a le coach à côté et là, j'ai mis Scott, c'est fait, t'inquiète, ça va bien se passer. Parce que finalement, le metteur en scène, le co-auteur, le coach, etc., tous ces gens-là, ils sont là à t'aider, mais c'est toi qui vas au combat, quelque part. Et donc, ça fait plaisir de savoir que quand tu regardes un peu comme les joueurs de tennis. Ils sont à la finale de Roland-Garros et ils font un coup pourri. Ils regardent les tribunes et il y a leur mère ou leur sœur ou quoi qui est là, allez, qui les encourage. Et c'est cool d'avoir des gens dans ton coin qui sont là que uniquement pour t'aider et qui veulent ton succès plutôt que aller voir les copains parce qu'ils sont gênés ou quoi, ou ils trouvent que tu fais de la merde, mais ils vont pas te le dire parce que ça se fait pas, ils veulent pas te blesser, ta 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 ta. C'est tout un truc. Et moi, je trouve que c'est cool. C'est cool d'avoir quelqu'un qui
Qui
ne
veut du
veut que ton
bien.
bien. Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est très important. Et c'est pas obligé d'être quelqu'un du stand-up. Hein. Ouais. Je suis entouré, ouais, je te dis, mon environnement positif, c'est pas que des gens du stand-up, mais c'est des gens qui à chaque fois réfléchissent pour moi. Et des fois, c'est dur parce qu'eux, ils voient des choses que toi, tu vois pas, ou ils veulent des choses pour toi que toi, tu ne veux pas encore. Et ils insistent, ils insistent. Ouais, les mecs, ils sont là, ils me disent des trucs 100 fois, 200 fois avant que je les comprenne. Mais quand je les comprends, moi, je suis là, je dis, OK, ça va. J'ai compris pourquoi vous aviez insisté, pourquoi vous vouliez que j'aille sur Instagram, pourquoi vous vouliez que je fasse ça. Et c'est important. Et je dis souvent, c'est un sport collectif qui se joue seul, en fait, le stand-up.
Ouais, c'est bien vu, ouais.
Ça fera la
Parce que des
citation
gens,
dans le podcast.
c'est ça. Parce que non, il y a beaucoup de gens qui ont des équipes entières. Alors, on ne voit qu'une seule personne sur scène, mais il y a toute une équipe. Il y a Kevin Hart, par exemple. Lui, il a embauché son barbier. Le seul barbier qu'il a trouvé qui faisait les cheveux comme il aimait, bah, dès qu'il a pu, il a pris le mec en tournée avec lui. Voilà, c'est des trucs, des délires comme ça. Mais si tu penses que tu as quelqu'un, Eddie Izzard, pareil, était son premier spectacle aux Ambassadeurs, tu vois au spectacle, et c'est un mec qui s'est levé le matin, il s'est habillé, il est allé faire le spectacle. Voilà, un peu qu'on dirait moi. Genre, mais, oh, non, mieux que moi. Voilà. Mais après, il y a eu un basque, il a rencontré justement je pense c'est une metteuse en scène, et qu'il a stylisé. Et là, Eddie Izzard devient une rock star. Tu vois les affiches d'Eddie Izzard. Et depuis ce moment-là, il y a vraiment un avant et un après. Et tu vois, waouh, putain, c'est une rock star. C'est un peu comme Eddie Murphy. Eddie Murphy avec le cuir. Putain, le mec, c'est pas un stand-upper, c'est une rock star. Et là, c'est tout autre chose. Et même Eddie Izzard dans ses spectacles, à un moment, il y avait je sais pas combien de camions de décors. Parce qu'il y avait un livre de je sais pas 15 mètres de haut, machin. Puisqu'il disait non, les gens viennent voir un spectacle. Il n'y a que moi sur scène, mais je veux quand même que ce soit spectaculaire. Et c'était une intention. Et voilà quoi. Donc chacun, évidemment, et encore une fois, chaque artiste est responsable de tout. Tout ce que tu fais et tout ce que tu ne fais pas, tout ce que tu montres ou que tu ne montres pas, ça, c'est une décision que toi, tu dois prendre tout seul ou toute seule. Et bon courage avec ça.
Ça me fait penser, en ce moment, il a sorti un documentaire sur Netflix sur le chanteur Robbie Williams.
Ouais.
C'est trop bien.
Ouais, j'ai vu quelques extraits. Ouais. Oui. Et
C'est
aussi.
toujours inspirant de voir les artistes, que ce soit la chanson, la peinture, le cinéma. Il y a toujours des leçons à appliquer sur les autres formes d'art.
Ben oui, ouais. Et il y a aussi pareil, oui, parce qu'ils étaient tous, c'était un casting. C'était tout ça, les Spice Girls, etc. Il n'y a rien de cinq potes qui se retrouvent dans un garage et qui c'est leur rêve de faire un truc, non?
Ouais, c'est pas Blur, on trouve ça, ouais.
C'est une machine, un truc. Et là, il y a un autre documentaire qui a l'air de sortir bientôt. Et là, je fais un coucou à El Goulami qui m'a envoyé ça. Je le retrouve. Alors, c'est Kevin Hart.
Ah, c'est Kevin Hart,
Headliners Only. Headliners Only. Premieres on Netflix.
c'est demain.
Demain, voilà. Et là,
C'est le
il y a un.
moment où on a. Alors, s'il y a un décalage entre le moment où vous entendrez ça, il sera déjà sorti.
Ah
Nous, on
oui.
enregistre un peu en amont le podcast. Donc, c'est un documentaire sur la tournée qu'ont fait Kevin Hart et Chris Rock. Et ça peut être trop, 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 trop bien, comme ça s'appelle le pire truc. Donc, on va pas se prononcer. Nous, moi, ça me donne envie. Ça fait un moment que Kevin Hart n'a rien fait de très excitant. Chris Rock, pareil, c'est pas le Chris Rock qui me fait le plus délirer
Ouais.
ces dernières années, mais. Les deux ensemble, dans une forme documentaire, c'est je vais le consommer dès la sortie. On fera la petite review dans le prochain
Ben oui,
épisode.
on vous tiendra informé. Moi, le dernier extrait que j'ai vu, c'est Chris Rock qui a comme un beatboard qu'on appelle quand on fait des scénarios avec des post-it. Genre, c'est sa setlist avec des post-it. Et moi, je vois ça. Tiens, le mec, il est un peu neuro-atypique. Mais juste comment les post-it sont alignés. et bien, j'ai dit, waouh, je vais mettre des années. Si je voulais, genre, je veux être Chris Rock, je vais mettre déjà du temps à maîtriser l'alignement du post-it. Donc, oui, j'ai hâte de voir ça.
Mais ce qui est marrant, c'est sur le post-it, c'est que moi, je fais des setlist vertical, c'est-à-dire je mets la première blague,
ouais.
Deuxième blague, tac, 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 et j'arrive toujours avec mes fiches, même sur scène, je joue souvent avec des fiches. Et donc, cette recommandation à faire des fiches, elle est dans le guide Ultimate Stand-Up, faire des fiches. Et en Comedy Club, à la fois, il y a une nana qui suivait mes recommandations et tout, et je la vois ouvrir un classeur, un petit classeur en format horizontal,
Ouais.
comme du 16/9e, elle ouvre. Et elle, sa setlist, c'était des post-it en carré, mais d'une façon de gauche à droite et sur deux lignes. Et à la fois, je me suis dit, putain, c'est malin, j'aime bien. Et à la fois, tu sais, c'était comme c'était trop éloigné de moi, alors que c'est un détail. Hein.
Ben oui.
Je me suis dit, putain, ça lui correspond, elle s'est approprié le truc, mais c'est déjà plus ma méthode.
Ben oui. Ben oui.
Mais je vois, elle est partie, je pense, du point de départ de, oui, tu dois faire une setlist. Et là où moi, c'était évident que c'était toujours de haut en bas, elle a dit, non, mais en fait, regarde, là, je peux manipuler les petits machins. Oui, je voyais que c'était trop bien son système. Mais c'est
Ouais.
pour elle. C'est
Bah oui,
plus le mien
c'est son
déjà.
système, c'est son. Eh oui. Et t'avais noté des trucs pour aujourd'hui. Qu'est-ce
Attends,
qu'on a?
attends. Mais Robbie
Non.
Williams, déjà, je te dis,
Ah
Robbie
oui,
Williams. Il faut que je
parlons-en.
parle de ça. Robbie Williams, donc, chanteur, fin des années 90. Il est dans le plus grand groupe du monde depuis les Beatles. Il est dans Take That, un boys band.
Ouais.
Et là, lui, il a 16 ans quand il intègre le groupe, donc c'est le plus jeune. Il connaît un succès phénoménal. Et dans ce succès, lui, il va le vivre avec excès. Drogue, boisson, tout. Il va faire la rockstar. Mais à côté de lui, ses camarades, eux, ils sont plus business. Donc, lui, son tempérament fait qu'il devienne une star dans ce groupe-là,
Ouais.
mais aussi qu'il s'aliène les autres. Au point où, à un moment, ils disent bah, écoute, on ne peut plus te prendre en tournée parce que tu n'es plus
T'es pas
capé
gérable.
comme nous. Voilà, tu n'es pas gérable. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il part, il se met de côté, il a la haine contre son ancien groupe et il veut se faire un nom de son côté. Et il va créer un album, il va s'entourer de bonnes personnes, créer un premier album où il est sous substance, où il n'est pas super bien, jusqu'au
Ouais.
point où son manager a dit bah, là, il faut que tu fasses une intervention et que tu redeviennes normal. Et en redevenant focus,
Ouais.
il va sortir son album. L'album va presque flopper. Jusqu'à ce qu'il y ait une chanson qui le sauve, Angels, qui devient la plus grande chanson anglaise des dernières années.
Ouais.
Il fait ça, et là, petit à petit, premier album, deuxième album et tout, il remonte, il recommence à remplir des grosses salles, des stades. Et ce qui est très drôle, c'est de le voir arriver dans un stade, arriver à ce moment-là où il dit, mince, je suis retourné à l'endroit qui m'a rendu malade, malheureux. J'y suis retourné de moi-même, et cette fois-ci, en plus, j'ai même plus les substances pour m'aider.
Bah oui, c'est beau ça.
Et c'est fou parce qu'il dit vraiment, je suis retourné, j'ai tout fait. Je me suis battu pour arriver à un endroit où je voulais pas être.
Bah oui, ça en dit long, hein. C'est très intéressant comme réflexion.
Ah, et tu le
Ça.
vois vraiment, en plus, lui, sa vie est très documentée, donc tu le vois se battre avec ça, tu le vois analyser maintenant avec ses yeux d'aujourd'hui comment il était à ce moment-là, en disant là, vous avez le Robbie Williams le plus en forme parce que je suis sevré de tout, je suis très costaud, j'ai perdu du poids. Et après,
Ouais.
tu le revois dans des liens, genre, oui. À ce moment, dans sa grande tournée de stade, il est en gros le lancement du show. Lui, il est des coulisses, il se met sur un rail, il s'allonge sur un rail, et le rail l'envoie au milieu de la scène qui est le plus avancé dans le stade, et pouf, il sort du sol.
Ouais.
Et tu le vois sur sa plus grosse date, où il dit, bah, je veux plus y aller. Je ne veux plus aller, je ne peux pas y aller, je ne peux pas aller jouer, je ne peux pas faire ce que je dois faire ce soir. Je ne peux pas le faire. Ouais, déjà, il faut, mais comment ça? Je ne peux pas monter sur scène. Et donc, tu le vois lutter contre sa peur de monter sur scène, sur l'inconfort et sur le traumatisme que c'est que devoir te produire quand tu n'as plus envie de te produire.
Bah oui, ça c'est un truc de fou. Ça me fait penser à deux choses. Une, Rod Stewart, qui disait que parce qu'après il y a un vrai et Michael Jackson aussi. Disons que ça, tu rentres dans un délire un peu presque messianique dans le truc, parce que ces gens-là, s'il y a, je sais pas, 50 000 personnes qui viennent te voir, qui ont acheté un billet pour venir te voir, pour qui tu te prends pour faire ta diva et ne pas y aller. Bon, tu dis, mais j'ai mon public, ça, mon public est là, machin. Michael Jackson, il y a eu un moment un documentaire qui disait, bah, oui, dans mes concerts, il faut toujours. Je fais la voix de Michael Jackson. Dans mes concerts, il faut toujours
D'accord.
avoir une ambulance parce qu'il y a des gens qui tombent dans les pommes. Et un hélicoptère et des trucs, il y avait tout à chaque concert, il y avait des gens qui faisaient des malaises et des trucs parce qu'ils allaient voir Michael Jackson. Rod Stewart, tu parlais justement de cette pression de la performance. Et quand tu es chanteur, ben c'est ta voix, elle n'est pas toujours là. Et le mec, il prenait à des moments des stéroïdes. Des
C'est ce que fait Robbie
stéroïdes.
Williams.
Voilà, des stéroïdes pour la voix, etc. Quitte à voir, à se voir rétrécir le kiki. Parce que tu t'en prends tellement. Et d'un autre côté, tu as Steve Martin, si on reparle dans la comédie, qui a eu tellement de succès dans le stand-up qu'il ne pouvait plus faire du stand-up. Parce qu'il était tellement connu, tellement aimé, tellement adoré, que les gens commençaient à gueuler. Le mec, il montait sur scène, les gens se mettaient à gueuler, ils arrêtaient de gueuler une heure après quand il sortait de scène. Et à un moment, il ne supportait plus. Il a arrêté net le stand-up parce qu'il ne pouvait plus tellement les gens l'aimaient.
Ah, je
C'est
sais. Alors,
plein de
tu l'as vu
paradoxes,
comme
quoi.
ça, toi?
Non, c'est ce qu'il a dit.
Ah, attention, ouais. Donc, il y a un livre qui existe, qui s'appelle Ma vie de comique en français.
Ouais.
Pour moi, c'est vraiment le livre que je vous recommande de lire. C'est Steve Martin. Il existe il est vraiment pas très cher. C'est un grand livre. Je pense que c'est un des plus grands témoignages de stand-up qui ait jamais existé. Et donc, il explique ce moment où il bascule, où il arrête. Et ouais, je l'ai jamais compris comme tu l'as compris, toi.
Moi, j'avais vu sa masterclass sur le site de masterclass et il montre, bon, je pense qu'il y avait ça, les gens criaient beaucoup et à un moment, il y avait une histoire avec une guitare où il attendait
Elle descend du ciel.
elle descende du ciel et le truc ne marchait pas. Mais les gens tapaient des mains, genre, il s'est rendu compte, je ne me souviens plus exactement, mais genre, n'importe ce que je fasse, c'est pareil, quoi. Les gens, voilà. Et c'est tellement. Mais c'est ça, il faudrait que je
Alors,
pense que
dans
je
le
l'ai déjà
livre,
vu.
moi, ce dont je me souviens,
Ouais.
c'est que surtout, il s'aperçoit d'un truc, c'est que il n'a plus la flamme pour recréer du matériel nouveau. C'est-à-dire, là, il est arrivé tellement haut. Et moi, c'est ce que j'ai senti. Je me suis dit, il sait ce que ça va lui coûter en énergie de revenir avec un nouveau spectacle. Il ne veut plus payer ce prix. Il
Ouais.
se sent plus payer ce prix pour arriver à ce stade-là. Et surtout, il dit, ce que mes managers ne voulaient pas avouer, ce qu'ils ne voyaient pas, ce que moi je voyais, c'est qu'il commençait à avoir des trous dans la salle. Il commençait à remplir moins.
D'accord.
Et il dit, bon, ben ça, c'était les deux signaux qui ont fait qu'il a basculé dans le cinéma. Et là, c'est tellement drôle de le voir revenir sur Disney+, dans la série Only Murder in the Building, qui est une super série. Je sais pas si tu connais, c'est une espèce de petit cluedo d'un immeuble.
Non.
Il y a Steve Martin, il y a Selena Gomez.
Ah oui,
Et
j'avais vu passer des images de
oh,
ça, oui.
qu'est-ce que c'est bien, c'est trop bien. C'est super bien parce que à son âge, il a encore créé un nouveau format qui rencontre un succès colossal. La série est un grand, grand succès Disney+. C'est sûrement, si j'enlève les franchises Star Wars et encore, je pense que c'est le plus gros succès Disney+, c'est ce truc-là.
Ah, c'est cool.
C'est énorme dedans. Il y a eu Tina Fey, il y a vraiment du beau monde qui Cara Delevingne, il y a du super casting. Et ce gars-là, il arrive encore à se renouveler 40 ans après son pic de célébrité. Il arrive encore à surprendre, à se renouveler.
Ouais, c'est un truc de fou, hein. Mais c'est ça, tu n'arrives jamais. Et là, je voyais pareil un truc sur YouTube où il y a des grands acteurs qui parlent. Il y a Jim Carrey, il y a plein de gens, il y a le mec qui faisait le Fonzie, je sais plus comment il s'appelle. Donc il y a...
Arthur, okay. Oui, je vois très bien
voilà.
Arthur.
Donc il y a tout, mais tu les vois, ils sont tous ultra connus et ils sont là, mais leur expérience, c'est que tu n'arrives jamais. Il y a des fois où tu te dis, mais même les gens, ils sont à table avec Jim Carrey, ils sont tous un peu impressionnés par Jim Carrey, mais Jim Carrey, il est impressionné par eux. Et t'as toujours cette comparaison et tu n'y arrives jamais. Et le jour justement où tu dis, ben ça y est, je suis au sommet, c'est bon, c'est que tu es mort.
Ouais.
Et donc, il faut vivre, et ça, je vois ça avec des gens avec qui je coach, c'est que tu es toujours dans la frustration. Parce que chaque fois que tu as un nouvel acquis, tu fais un truc, tu gères tes pauses mieux quand tu joues. Ah, ok, je gère ma pause, ok. Et là, tu vois le truc que tu n'as pas géré. Et après, tu vas en poursuite de ce truc. Et une fois que tu as maîtrisé ce truc, il y a quelque chose d'autre. Et tu ne t'arrêtes jamais. Alors tu te regardes en 2 ans, la progression que tu as faite, tu dis waouh. Mais t'es jamais arrivé, quoi. Parce que la meilleure blague, tu l'écriras demain. Et ça, c'est une pression de fou, quelque part.
C'est pour ça qu'il faut. Moi, je préfère maintenant réfléchir par projet. C'est-à-dire, tu vois, je ne peux réfléchir que comme ça, de se dire, bon, ben là, on a le projet Montreux, on a le projet de tel spectacle, on va l'écrire, on va le faire, on va l'arriver, mais il y aura une fin à ce truc-là. C'est-à-dire, ce spectacle va jouer tant de fois, on sait qu'au début, ça sera moins bien, ça va être de mieux en mieux, on va arriver à un point, ça s'arrêtera, ou alors on nous relancera pour faire des plus grandes salles. Tu vois, le fait de réfléchir par projet, au moins, on donne tout ce qu'on peut à ce moment-là.
Oui, et
Et on
surtout
n'a pas de
tu
regrets.
isoles. Oui, c'est ça. Et surtout tu isoles ta réussite à toi, ta personnalité, ton être, du succès ou pas de ce projet-là. C'est parce que si tu dès que tu fais une scène, et ça comme dans le livre La Guerre de l'art que tu nous as recommandé de lire, c'est quand tu as un succès, tu es là, ouais, parce que tu roules des mécaniques. Et quand tu fais un bide, tu penses que tu as une sous-merde. Ben, le professionnel, il n'est pas comme ça. C'est pas ça le truc.
Il faut décorréler ces choses, hein.
Eh oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon, c'est compliqué.
Et Fonzie, là, j'ai dit là, Henry Winkler. Donc, ça
Oui.
s'appelle Henry Winkler. On le voit dans le documentaire sur Stallone,
Ouais.
sur Netflix, qui aussi, je vous le recommande grandement de voir un documentaire sur Stallone. C'est lui qui accueille Stallone à Los Angeles, en fait.
Oui.
Ils ont tourné sur un film, le premier film de Stallone, où il a un bon rôle. Et donc, il accueille Stallone à Los Angeles. Et il est maintenant dans la série Barry, avec l'ancien mec du Saturday Night Live, là, qui est vraiment chouette. Tu vois cette série Barry? Tu la
Non,
regardes?
mais le... Non, je vois pas, je vois rien.
Barry, c'est l'histoire d'un tueur en série dont le rêve est de faire de la scène. En fait, il se découvre une passion pour la scène.
Ah, c'est
C'est un
drôle,
Bill Hader. Et donc, c'est un tueur à gages qui est un peu dépressif
ça. Ouais.
et qui, le jour où il découvre justement ce cours de mise en scène par Henry Winkler, il se dit, bah, c'est ça que je veux faire, quoi.
Mais oui. Oh, c'est cool. Moi, chaque fois que je vais sur les sites, je tombe sur de la merde. C'est pas ce
Justement,
que
c'est
c'est.
parce que ça, c'est pas sur Netflix.
Ah oui, ah oui, c'est pas... Ça s'explique alors. C'est drôle.
À Netflix, c'est compliqué. J'avoue qu'il y a peu de choses excitantes sur Netflix. Mais c'est alors, je sais pas si c'est parce qu'ils produisent moins de choses excitantes ou c'est parce qu'on tombe difficilement sur les trucs qui pourraient nous correspondre. Mais c'est pas évident. Netflix, c'est peut-être un des produits qui m'a le plus déçu ces dernières années, c'est Netflix.
Ouais. Moi, j'y vais plus du tout. Je paye, je partage mes codes avec la famille, mais j'y vais pas. Parce que chaque fois, ouais, c'est un peu. J'écoute un bouquin en ce moment et le mec dit des documentaires sur Netflix, c'est du divertissement. Et là, tu dis, ah ouais, oui, c'est vrai. Donc, faut pas prendre à la lettre ce que dit un documentaire de Netflix. Parce que tu arrives le lundi au bureau et tu dis, ouais, machin. Et tu as vu un documentaire. Bon, la fonction, c'est de te divertir et pas forcément de t'informer parfaitement.
Ah ouais, je suis le roi de documentaire Netflix, donc j'avoue, pendant un moment, j'étais comme ça à croire que j'accumulais le savoir avec ça.
Ouais.
Et j'ai pris une décision. C'est une décision. Je sais pas combien ça va durer, mais en tout cas, je le sens, c'est que j'ai arrêté les podcasts, par exemple, de consommer les podcasts.
Ouais.
Parce que je me suis aperçu, pareil, j'avais l'impression de confier mon cerveau à quelqu'un d'autre, de dire, vas-y, amuse-moi pendant 1 heure, 2 heures. Et
Ouais.
c'est bien. Mais là, j'ai un peu plus mis l'accent sur les livres audio,
Ouais.
en partie à cause de toi. Je me suis lancé sur des livres qui font 20 heures, 23 heures. Et c'est vrai que si tu veux les tomber, bah, tu peux plus écouter de podcast. Il faut que. Tu vois, chaque trajet en voiture, je me mets le livre audio, je me lave les dents, je me mets le livre audio, je me couche, je me mets le livre audio. Et j'avance au moins dans ces trucs. C'est pas de la fiction et je vois que mentalement, ça me ressemble beaucoup plus qu'un podcast où vraiment je confie le divertissement, le fait de m'amuser, le fait de créer des blagues à quelqu'un d'autre.
Ouais, ça c'est intéressant. Moi, pareil, la radio en bagnole, je n'écoute pas. La télé, je ne regarde pas. Et du coup, tu te fais comme une bulle de tranquillité. Et même le stand-up, il y a beaucoup de monde me parle, ah, tu connais un tel stand-upper français? Non, je ne regarde pas. Je regarde du stand-up français très, très rarement, justement parce que je ne veux pas. Ouais, parce que tu as les pensées ou les blagues de quelqu'un qui te rentrent dans la tête. Et un jour, tu fais pas exprès, tu peux en sortir une, et on peut te dire, ah, machin, copie comique, etc. Et tout. Et tu peux être influencé alors que tu n'as pas envie d'être influencé. Et
En quoi ça changerait du stand-up américain?
non, mais ça, bah déjà, ça change. Et le stand-up américain, non plus. Je regarde les grands du stand-up. L'autre jour, j'ai regardé un petit peu là, la série. Tu m'avais envoyé le lien. C'était quoi? Stand-up Verified. Mais c'est nul.
Ah, yeah.
C'est
Alors, on va en parler, on va en parler. Ouais.
nul. Nul. Et à une meuf. Bonjour. Déjà, mon petit coup
Attends,
de gueule.
ne t'énerve pas, ne
Écoute, je vais
t'énerve pas pour
m'énerver.
ça. Non.
Je me garde mon énervement.
Ah, ça s'appelle Verify Stand Up. Ce sont 10 humoristes qui livrent 10 spectacles différemment. Ça s'est tourné au Webster Hall à New York. Et dans le casting, allez, on vous fait le casting. Ce n'est pas des gens que vous
J'avoue que
connaissez. La
c'est des gens.
seule nana qui est un peu connue, qu'on a déjà vue quelques fois, c'est Rosebud Baker.
C'est qui, Rosebud Baker?
Rosebud Baker, c'est la petite blonde.
Ah oui.
Elle, on l'a déjà vue plusieurs fois parce elle a été suivie aussi par des documentaires, en particulier par Juste pour rire et tout, je crois.
Ah oui. Moi, franchement, j'ai vu ça, j'ai halluciné. J'ai pas tenu un seul humoriste plus de. Il y a une nana que j'ai pu regarder genre 2-3 minutes. Mais il y en a une qui arrive. Alors, ça va les PD? Ouais, les PD, ça va les PD? Ouais, bande de PD, ça va, hein? Et son truc, son intro, c'est ça. Et bon, moi, je suis lesbienne. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Genre, voilà. J'étais là je sais pas, comme une vache devant un palace. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quoi? C'est ça ton intro?
Mais c'est sympa qu'il y ait ce format-là quand même sur Netflix, qu'ils reviennent. Moi, j'aime bien ces formats où tu as plusieurs artistes, en fait.
Mais
C'est beau.
oui, moi, disons que s'ils sont là, c'est ça qui est con, qui me met en rogne. Non, ça me met pas en rogne. C'est OK, s'ils sont là, c'est qu'ils ont été sélectionnés. S'ils sont sélectionnés, c'est qu'ils sont bons. C'est qu'il y a eu des scouts ou des gens qui vont les voir en comédie club et qui les sélectionnent. Ou peut-être qu'ils ont fait des auditions. Donc ça veut dire que ces gens-là ont du mérite, ils ont été choisis. Après, une fois que tu passes au côté enregistrement du spectacle, tu n'as plus le droit de bider parce que on va pas te faire. Voilà, si on te prend, c'est pour faire un truc pour le vendre. Et le public, il est dans un truc aussi où c'est enregistré pour Netflix et ça va passer à la télé, entre guillemets. Et donc, il n'y a plus le droit à l'erreur. Et quand je vois le gars, on dirait qu'il a pris de la coke avant de monter sur scène, dire, ouais, je suis indien, mais je suis mexicain, mais ta 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 ta, c'est que ça. Je dis, mais il n'y a rien d'original, il n'y a rien de. Il dit rien, ce mec. Et je me demande comment il a fait pour arriver là. Alors que c'est peut-être pas. Il y a peut-être eu un virage. C'est-à-dire que le mec, il était sûrement proficient dans ce qu'il faisait. Et là, après, il faut faire un truc propre ou peut-être écrire exprès pour cette émission ou quoi. Et franchement, voilà, je peux pas.
Des fois, tu as des bonnes surprises quand tu les vois. Ça arrive que tu les vois là, que tu te dis c'est pas incroyable. Ou des fois, tu te dis ah, il y a un petit truc, et ça se confirme les années d'après. On a vu des gens, des Marc Normand, des gens comme ça, faire un quart d'heure, une demi-heure, et après, ah, paf, ils sortent du spectacle, incroyable. Là, je trouve que c'est une bonne antichambre du spectacle, ça, ce
Ah oui, moi
format.
je trouve que c'est pour leur progression en tant qu'artiste, c'est super. Après, et évidemment, chaque personne a son public et il faut que ton public te trouve. Il faut que tu sois exposé au maximum de public pour que ton public te trouve. C'est pas plaire à tout le monde. Donc, d'ailleurs, c'est cool qu'il n'y ait aucun qui m'ait plu. Ça veut dire que je ne suis pas leur public et que au moins ils se positionnent sur quelque chose que je n'aime pas. Mais il y a quelqu'un qui va aimer. Et donc, ça, c'est très cool.
On verra s'il y a une saison 2 surtout.
Oui, si, oui.
Est-ce que tu veux qu'on parle d'un truc plus fou encore?
Ouh, j'adore les trucs plus fous. Plus c'est fou, plus on parle.
J'en ai pas parlé pendant plusieurs semaines parce que c'était des frais que je me demandais s'il fallait en parler. Amazon.
Ouh, Amazon.
Amazon, ils ont lancé un programme qui s'appelle Comedy Class.
Déjà.
La Comedy Class, et donc ils ont approché plein d'humoristes pour dire est-ce que tu veux faire Comedy Class? On aime bien ton profil. Voilà. Et donc, je fais partie des gens qui ont été approchés. Et quand ils m'approchent, ils sont vraiment en mode, écoute, c'est confidentiel, c'est secret, il faut en parler à personne. Je fais, ok, il faut en parler à personne. On ne peut pas te dire vraiment le format de l'émission, on ne peut pas te dire où ça se fera, on ne peut pas te dire quand ça se fera, on ne peut pas te dire ce qu'on va te demander.
Il va falloir signer 200 papiers de confidentialité. Nanana.
Je dirais un oncle complotiste.
Ouais, c'est ça, c'est un délire comme ça. Alors, et donc, on passe, je passe les. Je vois une espèce de talent scout, il me dit on fait un entretien internet, ok, il me convoque dans leurs locaux, ça se passe bien, je rencontre psychologue, réseaux sociaux, production, journaliste, auteur, moi je rencontre le pack entier, il m'explique un peu l'émission, mais est-ce que ça on peut te le dire, est-ce qu'on peut pas te le dire, est-ce qu'on peut te le dire, est-ce qu'on... Alors que les autres candidats, certains avaient l'info, pas l'info, tu vois, tu étais obligé de faire ton... En gros, d'aller dire aux autres candidats, est-ce que tu sais ce que ça ce que c'est? Ah oui, moi ils me l'ont dit, hein, moi ils me l'ont pas dit. Donc déjà, c'était débile.
Ah oui.
Déjà, c'était bête. Après, je vois, moi, c'est ça se passe genre, une semaine. Ils me disent, ah ben là, mardi, est-ce qu'on peut venir à Marseille tourner un sujet sur toi? Je fais, ouais, mais je fais, mais il faut. Moi, là, on m'a pas confirmé que je faisais l'émission. Il fait, non, mais là, on va venir tourner un sujet sur toi, c'est bon. Tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Je fais, ah ouais, d'accord. Moi,
Vas-y,
écoute,
ta gueule.
ouais, bah voilà. Ouais. Donc, ils viennent, je prends la journée, ils tournent le sujet sur moi, nanana, ils m'expliquent un peu plus l'émission. Ils me disent, bah, écoute, on a une information, tu le dis. Les parrains de l'émission, c'est Eric et Ramzy. Et là, je me dis, waouh, ça part super mal. Et ça n'enlève rien à la carrière d'Eric et Ramzy, c'est très. Voilà, c'est pas eux, mais c'est eux, dans le contexte, on est parrain d'un truc de stand-up alors que c'est pas leur domaine
C'est eux
d'activité.
employés de quelqu'un. C'est pas
Ouais.
eux quand ils parlent eux-mêmes.
Voilà.
C'est super de les entendre, mais eux qui travaillent pour quelqu'un pour faire une émission, c'est peut-être pas ça.
Et là, ils sortent d'un coup, quelques jours après, ils commencent à avoir l'info le sort, et ils enregistrent une espèce de story très malaisante avec Ramzy, avec tous les hashtags de l'émission, hashtag talent, hashtag machin, tu vois, ils ont fait vraiment comme s'ils répondaient à un mec qui leur filait 100 000 euros, qui disait, allez, on va te faire plaisir. Donc, ils sortent ce truc-là, je me suis dit, oh, je suis pas bien. Et j'ai toujours pas, et moi, j'ai fait, là, l'émission me demande rate et mensuration pour le styliste et tout. Et les gars, on m'avait pas confirmé que j'y étais. Je me dis, ouais, d'accord, mais mensuration, non, mais si on demande mensuration quand même. Et je rencontre un autre comédien à Paris qui me dit, putain, mais tu as vu comment ça se passe, le format chaque semaine et tout? Je lui dis, ben non, j'ai pas. Je dis, tu l'as eu ça dans le contrat. Je dis, moi, j'ai pas eu le contrat. Je me dis,
Ah oui.
j'ai dit, ah, tu as peut-être raison. Le lendemain, j'appelle, je fais, les gars, comment on fait là? Une heure après, il m'appelait, il fait, bah, écoute, on a décidé de ne pas te garder dans l'émission.
Ben ouais.
Et donc, je dis, bon, bah, d'accord, on ne me gardait pas dans l'émission. Et en fait, donc, eux, ils ont. Donc, je résume l'émission Comedy Class, c'est un talent show où ils prennent, je sais pas, un certain nombre d'humoristes dans quatre villes.
Ouais.
Et ils vont essayer de déterminer qui c'est le plus drôle après différentes épreuves et tout.
Ouh.
Mais ils ont. Tu sais, ils ont compliqué le truc. Il y a un studio, au début, ça part d'un truc, d'un vœu qui avait l'air cool. Et plus tu entends le truc, je te dis, ah, oh, c'est compliqué pour rien, quoi.
Ben oui.
Ça sert à rien de faire des épreuves, de modifier les choses et tout. Laissez-nous nous exprimer. Et pareil, l'épreuve Marseille, c'est simple de se passer. Je l'ai découvert sur les réseaux parce qu'eux, ils ne me disaient pas, mais j'ai découvert parce qu'ils ont fait un appel pour le public. Donc, dès le moment où ils ont fait un appel pour le public, ils ont dit où ça se passait. Ça se passe à 20 mètres de chez moi. Ils font ça, c'était à midi l'enregistrement.
Wow.
Donc, tu sais, il n'y a rien qui va et tu es là, tu te dis, mais la télé, le stand-up, ça fait pas bon ménage. Parce qu'à la fin de la journée, on a beau te dire Amazon, on a beau te dire ce qu'on veut, ça reste de la télé.
Bah oui.
Et pareil, même moi, les gens étaient étonnés. Ah, putain, mais t'en virais comme ça et tout. J'ai fait, les gars, c'est Amazon. Vous croyez qu'on était avec des philanthropes là?
Bah oui.
Faut arrêter. Je l'ai fait en étant conscient que c'était Amazon et en me disant, eh, c'est cool, il y a possibilité d'eux. Mais je savais très bien que je pouvais sauter à n'importe quel moment. Je savais très bien que je pouvais être maltraité, ce qui était le cas. La thune, ils avaient cette étrange idée de ne pas te payer au début.
Ben oui, comme ça.
Bah, tes deux premiers passages de stand-up n'étaient pas payés. Que des
Tu
trucs comme ça.
emballais quelques colis, mais tu fais un petit stage.
Ah,
Ça,
mais
serait
c'est
drôle de
pas.
faire bosser les humoristes dans les entrepôts. Ouais,
Mais
c'est
c'est pas
drôle.
fou de pas faire payer les passages de stand-up?
Ah oui, c'est... Déjà, bon, si t'approches pour aller faire un truc, etc., et qu'ils veulent te rencontrer et tout, et venir tourner et machin, déjà, qu'ils te payent pas pour ça. Bon, ça peut se comprendre si c'est clair que tu es dans un truc de sélection, déjà. C'est pas... Hey, tiens, Briac, est-ce que tu veux participer aux sélections pour cette émission? Voilà ce qu'il faut faire. Tu dis, OK, bon, je veux participer à ça. Mais quand on te balade un petit peu On te fait genre, tu es déjà dans le truc, et voilà, mensuration et tout, on te fait croire que
bah,
tu...
C'est
Que
clair, et surtout, on te maintient sans contrat. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils avaient se gardé cette option de pouvoir changer le casting.
Mais oui.
Et donc, ils m'ont gardé dans les optionnés qu'on pouvait virer comme ça.
Et quand tu demandes à ta copine, tu dis, c'est quoi, tu fais quoi comme taille de doigt? Là, le doigt, tu fais quoi? Non, non, mais la bague, non,
Faut
j'ai dit,
savoir,
je
faut
vais pas te
savoir.
garder, je vais prendre une autre. C'est quoi le délire? C'est... Mais
Mais
bon.
ça fait partie du jeu. Maintenant, je vais revenir. Pourquoi je te dis ça, c'est que quand tu t'engages dans ce processus, tu sais pas comment va ressortir ton humour, comment va ressortir ton stand-up. Déjà, tu sais pas si tu dois accepter, pas accepter. Tu sais pas ce que tu vas jouer, pas jouer. Par exemple, moi, j'envoie les sketchs et les mecs me font des retours, mais c'est des retours de saucisses. Ils savent pas ils connaissent pas la teneur de mes sketchs. C'était pas un stand-upper qui me faisait des retours.
Bah
C'était
ouais.
les mecs, ils ont vu des trucs sur Instagram. Ils disent non, mais telle blague, telle blague, telle blague. J'ai fait, c'est pas le flunch en fait, mes sketchs.
Ah ouais.
Ça marche pas comme ça l'humour. Je connais, il y a un chemin pour que ce soit optimal. Tu avais ça. Après, tu as des épreuves, après, tu as des trucs. Donc, tu vois, je pense que quand Netflix t'approche pour dire écoute, tu es prêt, tu vas faire un quart d'heure ou une demi-heure, tu vas à fond les ballons et après. Et ce qu'il en ressort, ça représente peut-être pas forcément totalement ce que tu aurais voulu faire.
Ouais.
Mais on doit pondérer par le fait que bah, c'est que leur première apparition sur une plateforme ou sur une télé. Et je pense que c'est déjà un bon tremplin pour eux et tu apprends beaucoup de choses en le faisant.
Mais ben oui, mais malheureusement, je pense que il ne faut pas oublier ton chemin artistique et ta voix. Parce que c'est ça, c'est paradoxal, parce que c'est en étant toi-même et en faisant ce que tu veux faire qu'on a estimé que tu étais assez bon pour être considéré pour faire partie de ce truc. Et donc après, transiger sur son humour, sur son art, sur sa façon de faire. Parce que des exécutifs te disent il faut faire ci, il faut faire ça, ça peut être ta perdition quelque part.
Ce
Parce
n'est que
que.
ça, ce n'est que
Ouais.
ça. Et je le dis, pour avoir expérimenté plusieurs fois cette année sur des projets qui n'étaient pas forcément les miens, je m'aperçois que les gens viennent te chercher pour un truc X, et ils veulent ce truc X, ils croient en tout cas être cible pour ce truc X, et à la fin, ils veulent un truc Y.
Mais
Et
oui.
tout mon travail, moi, surtout quand ce n'est pas moi l'artiste mis en avant, c'est de protéger l'artiste, de dire non. Là, ils nous tirent vers le bas. Ils sont en train
Ben
de...
oui.
On avait ce projet-là, dans telle condition, pour que ce soit cool, c'est ça, ça et ça. Et là, ils sont en train de faire... Ils sont en train vraiment de laisser tomber sur ça et de nous tirer vers le bas à chaque étape, chaque étape, chaque étape, et ça devient plus cool. Donc, ça ne veut pas dire, nous, on doit rester campé sur nos positions. Ça, je veux juste dire, on doit quand même garder l'intention première et ne pas laisser ces gens prendre des décisions pour nous sur des choses qu'ils ne comprennent pas et ils vont forcément nous plomber. À chaque fois qu'on fait le compromis, ça nous plombe.
Mais oui, là par exemple, je voyais une masterclass de Lee Child, le mec qui a écrit tous les livres de Jack Reacher. Et c'était une belle opération marketing. J'ai vu sa masterclass et je me suis bouffé 27 livres d'affilée de Jack Reacher. C'est super. Allez-y, lisez-le, c'est cool.
Tu peux sauver.
Merde, je peux sauver, je pouvais être là, je pouvais être énervé. Et donc, il disait que les éditeurs, il parlait des éditeurs. Que ces gens-là, ils savent faire des couvertures de livres. Ils savent faire du graphisme. Ils savent faire de la mise en page. Ils savent ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais ils ne savent pas écrire. Et ça, c'est un truc de fou. Parce que si tu écris ton bouquin et tu envoies à une maison d'édition, la maison d'édition, ils savent éditer. Ils ne savent pas écrire. Sinon, ils seraient auteurs. Et ça, tous ces gens qui sont autour, voilà, c'est des réalisateurs, des trucs, voilà, ils ont leur champ de compétences, mais ils sont bons à ce qu'ils font, mais ils peuvent pas faire ce que tu fais toi. Et ça, c'est déjà, c'est il y a un peu l'imposteur en nous qui se dit, ah non, mais ils doivent savoir, ils sont dans l'industrie,
Ça veut
etc.
rien, ça veut rien.
Ils savent rien. Il y a que toi qui sais pour toi et ton expression artistique. Et ça, c'est super dur à accepter, je trouve que les gens, voilà, c'est une grande étape dans ta progression d'artiste. D'accepter que tu es un artiste et de t'engager sur le fait que tu sois un artiste. Et de là, tu peux commencer.
Je trouve que les mecs forts que j'ai côtoyés dans les autres postes, que ce soit réalisateur, au son ou décor, ce sont des gens qui arrivent à ouvrir le dialogue. C'est-à-dire, nous, ça arrivait, mais pour des questions que tu peux même pas imaginer sur les captations, c'est le pied de micro, il m'emmerde là. Tu vois, le mec te dit, ça me plaît pas, il est là, il faut pas qu'il soit là dans le cadre. Mais tout le problème te dit, et il te dit, est-ce que tu en as besoin vraiment? Et donc, nous, on doit répondre à ce moment-là, non, on n'en a pas besoin, ou on en a besoin.
Ouais.
Ou on en a besoin parce que on a fait toute la mise en scène avec ce pied micro-là. Donc là, lui, il n'était pas là à argumenter, est-ce que vous voulez mettre à droite, à gauche? Je fais, ok. Il en prend compte, il fait des modifications techniques pour se dire, bon, ben ça, c'est un impondérable, ils n'ont pas pu. Après, il y avait une histoire de tapis, pas tapis. Non, ça, nous, ça ne joue pas chez nous, mets-le comme tu veux. Et donc, ils font, ils modifient leurs équipes, et ainsi de suite, pour le son, pareil, la captation sonore et tout, est-ce que ça, ça voit, est-ce que ça... Et chacun reste dans son attribution, où il ne gère que son truc,
ouais.
Et il t'écoute en tant qu'artiste en disant, non, moi, en tant qu'artiste, ça, ça va me poser problème, et ça, c'est pas optimisé, donc est-ce qu'on peut... Et lui, il apporte des solutions techniques.
Ben oui, ça, c'est un truc aussi, une leçon que j'ai appris de je sais plus qui, c'est dans le showbiz, tu fais uniquement ton taf. Uniquement ton taf. Et ça, c'est un truc qui est aussi dur pour quelqu'un comme moi. Moi, je vais toujours donner un coup de main, faire des trucs, machin. Non, tu es le talent, tu es face caméra. C'est ça, ton taf. La lumière, ça ne t'appartient pas. Le truc, les prises de... Non, ça, ce n'est pas ton job. Ton job, si c'était le talent face caméra, tu fais ton truc d'être le talent face caméra. Moi, avec la voix que je fais pour les montres suisses, là, des fois, le script, c'est... J'ai envie de le changer, mais ce n'est pas mon taf. Et le vidéaste, son taf, ce n'est pas la voix. Son taf, c'est la vidéo. Et le gars, la personne qui écrit le script, son taf, c'est d'écrire le script. Et l'autre qui négocie avec la marque avant d'écrire le script, voilà, il y a toute une chaîne. Et même si c'est très tentant de sortir de ton cadre et d'aller dire au réalisateur quoi faire ou d'aller dire à n'importe qui comment, non, non, non. Mais tu ne peux pas non plus permettre justement qu'on vienne te dire, toi, quoi faire. Tu vois, c'est un peu... C'est respecter les limites des autres, mais respecter encore plus les tiennes. Et voilà, c'est mais encore une fois, tu as peur de passer pour un trou du cul, tu as peur de blesser, de vexer, etc. Mais non, c'est ta responsabilité d'être toi-même.
Et c'est quelque chose que j'ai appris, ça m'est naturel, parce que je l'ai appris, en fait, je viens du cinéma. Quand moi, j'ai ma formation, c'est réalisateur. Et sur un tournage... Sur un plateau,
ouais.
Chacun son rôle, et on le prend mal que tu te déplaces de rôle.
Ben oui.
C'est-à-dire que moi, en tant que réalisateur, je gère pas le son, je n'ai pas à le faire, je ne déplace pas les projecteurs, voire même, si c'est pas spécialité, je ne touche pas la caméra, je réalise. Et ça, tu vois, on avait ce côté très hiérarchique, où chacun a son truc à faire, il est appelé, on n'est pas tous appelés à la même heure, on n'a pas tous les mêmes fonctions, mais il y a le chef d'orchestre, il y a le premier assistant qui va nous coordonner.
Mais oui,
et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal même à faire machine arrière sur les tournages plus modestes que l'on peut faire. Enfin, je fais des vidéos sur Insta et tout, parce que si un comédien me bouge un projecteur, je me souvenais pas que tu étais... que tu gérais la lumière, en fait. C'est pas toi, la lumière, c'est pas toi.
Oui,
oui. Et là, je le dis d'une façon qui est trop dure.
Ouais.
Et je vois qu'il le prenne là, mais en haut, je me dis, mais comment tu peux toucher la lumière? Parce que le temps que tu crois nous avoir fait gagner, en fait, on le perd.
Bah oui.
On le perd parce que tu as créé un autre problème ailleurs, où tu t'es pris les pieds dans le fil à côté. Ou moi, je vais me prendre les pieds parce que toi, tu l'as bougé de la mauvaise façon.
Oui.
Donc, je veux pas, toi, tu es là, tu vas te concentrer sur ton jeu. On a payé un réalisateur, il va réaliser. Et la lumière, si c'est moi qui règle, je règle. Mais je veux, et cette hiérarchie-là, personnellement, elle me préserve. Je sais que c'est comme ça que je réussis à faire aboutir les projets, c'est que chacun fait son truc de son côté.
Mais oui,
je veux dire, tu n'écoutes pas les suggestions et tout, mais je préfère rester concentré sur tes blagues, créer des nouvelles blagues dans ta tête pour quand on va faire action, on va pouvoir mieux échanger. Mais tout ce qui va être très technique, laisse-nous faire.
Mais oui, mais oui, mais oui. Et surtout, quand tu es dans le stand-up, normalement, bah, le but, c'est que tu sois le talent. Et quand tu es le talent, tu as comme la sensation... que c'est toi qui... Moi, quand j'ai fait enregistrer ma masterclass, il y avait deux réalisateurs et deux stagiaires qui faisaient du cadre et des prises de vue, le son, etc. Donc, j'avais en face de moi quatre personnes qui devaient se coordonner en même temps pour rendre ce que j'avais à dire, pour le rendre beau et pour voilà. Mais du coup, tu étais un peu gêné. Voilà, mais c'est un truc quand tu... C'est souvent, on a le problème, et ça, c'est cool pour tout le monde... On mélange les contrats. Ça, c'est un truc, bon, ça va être un peu chiant, accrochez-vous. Le contrat, tu peux avoir le contrat social ou le contrat professionnel. Un pote déménage, tu vas l'aider. Tu vas l'aider, il te file 20 balles. Il te file 20 balles, autant te cracher au visage. Tu as passé une journée à porter ces machines à laver, ces trucs, sa merde. Il te file 20 balles, c'est comme une gifle. Tu vas aider ton pote à déménager. Tu l'aides. Donc, n'insulte pas. Voilà, si quelqu'un vient t'aider, ne l'insulte pas en lui donnant 20 balles.
Une pizza, un bout de pizza avec toi, la rétribution classique, une bière, une pizza.
Voilà. Si tu veux donner de l'argent, bah, tu payes quelqu'un à l'heure et tu payes 100, 200, 300 balles la journée et voilà. Et là, c'est un contrat professionnel. Donc, le contrat personnel fait que si moi, je suis assis sur un canapé, un canapé super sympa et tout, et qu'il y a 4 personnes qui s'activent autour de moi et qui étaient là avant moi pour monter le studio, pour monter la lumière, pour amener les micros, pour tout brancher, etc. Moi, je suis gêné parce qu'ils ont beaucoup plus travaillé que moi. Tu vois, mais ça n'a pas lieu d'être parce qu'on est dans un contrat professionnel. Voilà, moi, je dois me concentrer sur ma performance et essayer de faire abstraction le plus possible que ces gens sont en train de travailler autour de moi, etc. et rester concentré sur ce que moi, je veux dire. Parce que sinon, c'est là que tu fais perdre du temps à tout le monde. Si tu veux aller aider un tel ou porter un truc ou faire ça, et qu'ils doivent t'expliquer dans quelle boîte va le micro, machin, tu es dans les pattes des gens.
Tu n'as pas de plus-value en plus.
C'est ça.
Quand c'est toi qui le fais, ça n'a pas plus de valeur que quand c'est n'importe qui le fait.
C'est ça.
Par contre, ton truc à toi, personne ne peut le faire pour le coup quand tu es au centre projecteur. Donc, il faut que vraiment que ça peut pas. On pourra remplacer le technicien qui tient le perchman ou quoi, on peut mettre un autre mec qui perchman, c'est son métier et tout, mais toi, si on a décidé de capter Scott, on doit capter Scott.
C'est ça. Et surtout, un truc aussi, on va te poser beaucoup de questions et toi, tu dois te donner une réponse quand c'est toi la tête du truc. Voilà, on te demande, est-ce que ça... Moi, je faisais dans la masterclass, il y avait un truc sur les suppositions. Et dans ça, j'avais une ATED, une canette de coca. Et je parlais dans un micro avec des écouteurs, quand on avait le feed et on parlait dans le micro des écouteurs pour montrer les suppositions. Donc, la supposition, si j'ai une attelle, c'est que j'ai mal à la main, que si je parle dans le micro des écouteurs, c'est que c'est ce micro qui capte ma voix. Et dans la bouteille, dans la canette de coca, on imagine qu'il y a du coca. Donc, c'était très clair, je veux faire ça, donc il faut que les gens voient la canette, qu'ils voient l'attelle, qu'ils voient le truc et qu'ils comprennent ou qu'ils puissent faire la supposition. Et à la fin de ce cours-là, je prends la canette de coca et je verse dans un verre et c'est du lait qu'il y a dedans. Et donc, pour moi, c'est important que les gens voient ça. Et donc, ils me demandent, alors, c'est quoi le truc important? C'est qu'on voit que tu as un coca, qu'on voit... Donc, ils veulent savoir, ils veulent des directions claires sur ce que toi, tu veux faire. Et moi, je leur dis, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une canette de coca. Je ne veux pas qu'on la montre comme tu montres des fois un truc qui va être important dans l'histoire plus tard. Non, je veux que ce soit subtil, que ça soit vu, et à la fin, quand je verse, que ça soit vu aussi, mais sans que ce soit trop appuyé. Donc, quand toi, tu as une vision claire, il faut que tu l'expliques pour que les gens puissent la suivre et la réaliser, quoi.
Mais c'est ça, le mot qui est important, c'est vision. Vous donnez votre vision et vous laissez les techniciens l'interpréter et la traduire. Et cette histoire de question sur un projet comme une captation, si le jour où vous allez au spectacle, c'est vous êtes assailli de questions en permanence, on va vous poser beaucoup de questions. Et c'est là que l'entourage est important et que vous devez répondre clairement. Et le pire qu'on puisse répondre, c'est fais comme tu veux. Ça n'existe pas.
Ouais.
Donc, ça arrive quand j'accompagne les comédiens sur ce type de projet, je prends en charge 90% des questions. Parce que 90% des questions ne les concernent pas vraiment.
Oui, c'est une question de A ou B.
Je le règle, moi. Ça, on va le faire comme ça. Et qui c'est qui a besoin qu'il en fasse un lancement? Ça, c'est notre équipe, on va le faire. T'inquiète pas, je m'occupe de ça. Et lui, à 19h, il y a ça. Ok, ça, on... Par contre, quand c'est des vraies questions de est-ce que tu penses faire ce sketch et tout, ok, là, vas-y, réponds-toi. On fait ce sketch, oui. Oui, il fait ce sketch. C'est bon, vous n'avez plus besoin de lui, on le laisse se reposer. Non, mais il faut vraiment accepter que vous allez être assaillie de questions, il faut vraiment vous dire est-ce que c'est moi qui dois répondre à toutes ces questions-là? Quand je réponds de quelle façon? Et est-ce qu'il n'y avait pas déjà des choses de référence? Est-ce que vous n'avez pas déjà émis des documents? Est-ce que c'est pas déjà dans le mail? Est-ce que c'est pas... Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Des fois, quand on pose des questions, les gens, ils ont besoin que vous leur rappeliez quelque chose, que vous leur rappeliez l'intention, que vous rappeliez... Et voilà, il faut juste vraiment apprendre à répondre aux questions parce que vous allez, votre métier, à un moment, c'est de répondre à beaucoup, beaucoup de questions.
Ouais. Et des fois, tu vois, moi, ça m'arrive souvent, ils te posent des questions et tu sais que réponse A ou réponse B, ça se ressemble. Et donc, moi, souvent, je réponds vite. Tac, tac. Et donc, tu as l'air d'un mec super décidé. Alors que non, c'est juste que entre 30 degrés et 34 degrés de machin, quand tu vois pas la différence, on te demande de choisir, tu choisis. Allez, tac. Mais il faut savoir différencier, voilà, les questions essentielles des questions accessoires. Et surtout, assumer ce rôle. C'est ça, pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est de se dire, je suis là, je suis le talent, c'est moi l'objet du truc. Et de ne pas penser que c'est prétentieux. C'est juste ça. Voilà, c'est genre la diva Callas qui va chanter. Bah, ils sont 80 dans l'orchestre. Et eux, ils ont tous leurs petits papiers, ils ont répété, 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 répété. Et des fois, tu les connais même pas. Tu arrives et tu fais ton truc. Et les gens, ah, et c'est toi qui as tout le mérite, toute l'ovation. Hein? Mais c'est ce métier-là. Et si tu te casses la gueule, les autres, ils rentrent chez eux, ils sont peinards. Ils vont se dire, putain, quel con ce Scott et tout. Et c'est toi qui te bouffes l'humiliation. Donc, c'est toi qui prends les risques, c'est toi qui
Et les
récupères ton poste.
récompenses.
Voilà.
Exactement. Et ça veut dire aussi que vous devez penser à toute la chaîne qui vous amène sur scène. Et on va faire pour le stand-upper, c'est très simple. Quand vous allez jouer d'un comique à votre spectacle, il y a quelqu'un à l'accueil. Puis il y a quelqu'un peut-être qui découpe les tickets. Puis vous avez un régisseur. Il y aura peut-être quelqu'un qui est au bar. Tous ces gens-là, ils méritent votre considération en fait. S'ils ne sont pas là, vous ne montez pas sur scène.
Ben oui.
Donc, essayez d'avoir un mot pour eux, d'être sincère, de savoir qui ils sont, ce qu'ils font. Et vous verrez, vous en tirez que du bénéfice parce qu'ils sont plus engagés envers vous, la relation sera plus vraie. Et pareil, un bon régisseur, c'est cool en fait, d'avoir un mec qui a vraiment compris ce que vous vouliez et il
Qui
sera.
s'endort pas
Il ne s'endort
dans
pas, qui loupe pas le seul top du spectacle. Et même
Oui,
s'il le
c'est
loupe,
ça.
ouais, même s'il le loupe, moi j'essaie toujours de les mettre dans le projet et dire. Ça repose pas sur ça.
Bah oui, bah oui.
Donc,
Et
va
d'ailleurs,
à toi le
si ça
projet.
repose sur les effets lumière, son, etc., c'est que c'est pas assez fort. Voilà, c'est que
Non,
au
ça
moins si tu
peut.
es du stand-up, quoi, si
Non,
tu fais du.
ça peut. Il n'y a pas de souci, mais ça veut dire que si tu veux que ça marche, alors, tu n'arrives pas à 19h pour 20h. Tu as rendez-vous à 13h et pendant l'après-midi, vous répétez ce truc-là et c'est infaillible.
Ben oui.
Mais rends-toi, voilà, rends le truc possible. Ne compte
Ah
pas
oui.
sur le fait, non, mais j'ai le régie simple, il a qu'à lancer ça. Non, ça marche pas comme ça. Lui, il a d'autres soucis, le régisseur. J'ai le dixième à dire que tu as une régie simple et tu arrives, tu as 6 pages. Donc, ça marche pas comme ça. Il faut
Oui.
comprendre ce que fait chacun. Un régisseur, lui, déjà, c'est pareil pour quand on te dit, oui, quelle lumière tu veux, que tu mets ce que tu veux. Non, tu le rends malheureux. Il n'y a pas de ça. Sois précis. Tu dis, je veux un plein feu bleu avec du bleu derrière, il te fera un plein feu avec du bleu derrière. Et il sera trop content parce qu'il aura contribué au truc.
Bah
Si
oui,
tu dis
ouais.
juste, fais ce que tu veux, ça ne lui va pas. Mentalement, c'est très désagréable. À... C'est vraiment, bon, de toute façon, ça change rien ce que tu fais, alors que ça change beaucoup de choses.
Mais oui. Ouais. Et si
Il
tu
faut.
veux, justement, et si tu veux que quelqu'un te crée la lumière, il y a des ingés qui te créent ta lumière, qui te créent ton truc. Et là, c'est même, t'as le metteur en scène, t'as le machin, et t'as un ingénieur lumière qui va te créer une ambiance à chaque moment de ton spectacle, mais ce qui après va limiter les salles dans lesquelles tu peux jouer. Parce que si t'as un
Ça
truc
nous arrive là
poussé.
sur. Oui, c'est normal, mais c'est sûr certain. Mais si tu veux quelque chose de correct, tu es obligé de faire appel à ce type de talent-là, parce que moi, en tant que stand-upper, en tant qu'auteur, je ne l'ai pas. Donc, on fait appel à des gens qui sont créateurs lumière. Ils viennent une journée, ils établissent une fiche technique. Cette fiche technique, ils l'envoient à toutes les salles où tu vas le faire par la suite. Et à chaque fois, au moins, tu auras toujours les mêmes choses dans le bon ordre. Et ils feront, ils savent que l'option A. C'est si vous avez tel matériel, vous le faites comme ça. Si l'option B, ben on a vu que la moitié salle avait tel matériel, vous devez le faire comme ça.
Mais oui.
Mais ça fait partie des choses qui contribuent au fait que les spectateurs voient un beau spectacle.
Mais oui. Et ça aussi, il faut accepter que si c'est si votre métier, si c'est votre entreprise, le fait d'être que votre humour, votre carrière soit votre destin, il faut lâcher un peu de pognon pour... on ne peut pas faire tout seul. On n'est pas avocat, on n'est pas plein de choses. Et donc, et les gens ne vont pas travailler gratuitement jusqu'au parce que toi, tu as un rêve. Donc, toi, tu as un rêve, passe 2 heures, tu passes 2 heures à travailler. Moi, par exemple, il m'est arrivé de passer 2 heures à donner un cours de stand-up à quelqu'un pour payer 2 heures un cours de maths, une prof particulière pour ma fille. Voilà, parce que je ne peux pas l'aider. Je peux pas l'aider.
Très bon conseil. Alors, on va prendre les métiers. Tu as parlé avocat. Avocat, si demain vous devez signer un contrat, les rois des contrats sont les avocats.
Ouais.
Vous pouvez signer un contrat sans avocat, mais c'est risqué.
Ouais.
C'est risqué, vous devez le faire. Et ce n'est pas votre pote qui a fait une école de droit, non. C'est un avocat ou un manager. Il faut le faire relire. Et,
oui.
Et ça coûte cher au début, je suis le premier à le dire. La première fois que vous avez un avocat, c'est, ça coûte cher. C'est, vous allez faire 700, 800 euros pour le premier contrat et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais moi, j'ai eu des contrats qui ont fait 10 allers-retours avec, avec les productions.
Mais oui.
Et c'est, il fallait bien 10 allers-retours et je vais donner l'exemple très simple, c'est Bria qui s'engage à faire du stand-up. L'avocat a dit, ça veut dire quoi faire du stand-up? C'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Comment on le traduit ça en termes juridiques? Ça t'engage en quoi faire du stand-up?
Oui.
Donc, il a rajouté des... Voilà, il rajoute des paragraphes, il dit non, faire du stand-up, c'est monter sur scène, faire une performance artistique. T'es... Mais est-ce que si je fais des blagues devant mon écran, c'est du stand-up? Ah non, ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est un attribut que la production n'aura pas. Non, 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 non. Donc, j'ai perdu des sous, j'ai dû donner des sous, investir.
Oui.
Mais ça a balisé la fois d'après. Ben, j'ai ce contrat type, j'ai ce truc-là. On peut... Mais l'engagement initial, il coûte des sous. Pareil pour le livre. Le livre, le fait de le sortir hors circuit des éditeurs, parce que j'avais cette croyance que je préférais Amazon pour le coup, même s'ils font copie classe. Il fallait bien faire une mise en page très particulière pour Kindle qui demande un savoir-faire. J'ai payé un éditeur du web et c'est à moi dans mon économie de dire ben, écoute, les X premiers livres serviront à payer cet éditeur et cette mise en page et mon pari est gagné à X plus 1 et je le fais sans déplaisir, hein. C'est normal, je ne sais pas le faire ou si je sais le faire ma plus-value n'y est pas, je vais passer des centaines d'heures sur un truc où mon temps il vaut mieux que j'écrive des blagues ou des livres.
Eh oui, et je vais vous montrer un truc. Voici, si je peux le faire vite fait. Comme ça, je fais un petit plug aussi de mes talents. Alors, attends.
Qu'est-ce que tu t'es fait de beau essai?
Ah, je me suis fait faire un truc. Là, vous avez... Bon, je suis acteur voix, comme peut-être certains sont au courant. Alors, j'ai essayé de mettre ça ici dans le truc.
Non, quand on est acteur voix, on est d'accord que tu peux être appelé pour de la radio, pour de la télé, pour du livre audio, c'est ça, hein,
Oui, c'est ça. C'est
tout le monde peut être acteur voix, je vous le dis, le secteur est très ouvert, mais c'est tellement dur qu'il y a quasiment
très peu de débuts. Et là maintenant, Apple, ils ont autorisé, ils ont même créé un narrateur virtuel, genre pour des livres. Maintenant, si vous voulez faire un livre audio, votre livre, tu balances ça et c'est une voix d'intelligence artificielle qui écrit
une prémisse, un angle et une punchline.
C'est ça, tu vas voir. Alors, je vais vous faire un truc et je vais vous dire, comment ça m'a coûté? Je pense que ça m'a coûté $600.
Voilà.
Et vous allez voir, c'est très vite, c'est pas compliqué, ça dure même pas une minute.
Introducing Babbel, the ultimate language learning app that brings the world to your fingertips. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Estoy génial, ¿cómo estás amigo? Join millions of language learners like me who've unlocked a world of opportunities with Babbel. Finally, speed meets precision. The epic Maxstar. From Callaway Golf, don't strike out this year. The Milwaukee Brewers are back in action and season tickets are selling fast. Visit MLB.com/Brewers to save your seats. Back now, when they're gone, they're gone. Whether it's a special something for that special
someone,
vacation, the Discover It card is offering 5% cash back at home and travel stores between now and the end of the year. It pays to discover.
Voilà.
Alors, le process, c'est quoi? Tu as payé 600 pour quoi alors là?
Alors, la voix, c'est ma voix. Donc, j'ai enregistré ma voix. Tout ce que je dis, voilà. C'est la même qualité, c'est le même studio que vous m'entendez ici. Alors, ce que je paye, c'est le traitement de la voix. c'est la petite musique qui va derrière et que du coup, il a créé une comme des plusieurs petites.
C'est un ingé son.
C'est un ingé son qui va travailler chaque modulation. Et quand j'entends, waouh, je presque je ne reconnais pas ma voix dans le sens où tellement elle sonne plus forte, plus proche, c'est tellement plus arrondi, tellement plus cool. Et là, ça, c'est la base pour se faire. C'est une démo professionnelle et c'est du truc le plus bas de gamme. Parce que ça coûte 3 000 euros facile.
Donc là, tu as payé 600, tu investis sur toi en te disant j'ai ma bande démo et avec ça, je vais pouvoir démarcher
les
clients. Quand on me demande un truc, j'ai ça. Et donc, au bout de X clients, tu auras amorti ça.
C'est ça. C'est ça. Et je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent. Mais il y a un certain site sur lequel j'ai envie d'être présent. Ils me disent, voilà, tes démos sèches, juste avec ta voix, c'est très bien, mais on veut une démo produite professionnellement. Et voilà, c'est la base. Et d'habitude, c'est beaucoup plus cher. Et tu dis, waouh, tu dis, ça fait mal, mais est-ce que je ne mets pas une petite musique de fond pour faire moi-même la pub et mon petit truc et machin et...
Tu n'as jamais un résultat.
C'est ça. Et tu vas passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à te casser la tête, à apprendre un machin, et tu sais que ça va être ta première, ça va être pourri. Voilà, c'est tout con.
C'est pareil pour vos photos, prenez un photographe, vos affiches, prenez un graphiste. Il y a des mecs qui font ça trop bien, Basile Lesilles, des gens comme ça à Paris qui sont connus. Leurs prix sont plus que raisonnables parce qu'ils connaissent votre économie. Des fois, ils vous permettent même des facilités de paiement plusieurs fois.
Ouais.
Mais si vous l'êtes professionnel, mettez un environnement professionnel. Arrêtez le bricolage, arrêtez Canva pour vos affiches parce que là, ça ne va plus du tout déjà.
Oui, c'est vrai.
Et voilà, payer, il faut payer un moment pour avoir des trucs. Et c'est là où c'est vrai que c'est cool d'avoir une production, c'est que tous ces frais-là, vous avez l'impression que vous ne les payez pas. mais la suite, elle est là. C'est une impression, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez les payer, ça va être refacturé. S'il y a un besoin de graphisme et qu'il faut appeler une agence, oui, vous n'allez pas les payer de votre poche, mais à un moment, dans votre ligne comptable, il sera marqué le spectacle, moins le graphisme.
Ben oui. Ben oui, c'est pas donné, hein. C'est ça le truc. Mick Jagger, il étend le bras et dit « Je veux un Coca Light ». Et le Coca Light apparaît dans sa main. C'est pas gratuit parce que le mec est connu, non. Le mec qui est là à attendre avec son petit Coca Light dans une petite glacière, le moment où lui, Mick Jagger, a envie de boire son truc, bah, lui, tu le payes toute la journée. Tu payes le coca, tu payes tout. Et il faut aussi espérer être payé. Voilà, si toi, tu payes pour des services, bah, tu vis mieux le fait d'être payé quand tu fais quelque chose. Et par rapport aux photographes, un petit conseil, pareil, parlez-en à vos photographes de ce que vous allez faire et l'utilisation que vous allez faire des photos. Moi, j'ai eu le cas. J'ai fait un de mes faux livres sur Amazon. C'est un livre de recettes que j'ai fait, où je donne la recette du brocoli. Voilà ça. Et j'ai utilisé des photos d'un shooting que j'avais fait avec une fille ici à Toulouse. Et c'est des faux livres que j'ai fait, c'est de la parodie, c'est pas des livres... voilà. Et la fille, elle a vu ça. Elle a vu que je vendais un livre sur Amazon avec une photo qu'elle avait prise. Et elle a pété un plomb. Mais... péter un plomb. Parce qu'elle ne m'a pas demandé, genre, bah dis donc, tu fais des livres et tout, comment ça se passe? Non, c'était genre, c'était un scandale, quoi. Que je l'avais volé son travail et que machin, et que ça ne se fait pas, et ta 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 ta. Et j'étais, ah, mais attends, mais quand on a fait le shooting, on s'était dit que je pouvais utiliser ça sur Internet pour, voilà, pour mes affiches, pour mes trucs. Ah oui, mais pas pour des livres. Parce que si tu vas imprimer ma photo que j'ai prise, tu dois me payer de temps en temps et m'envoie le tableau. Ouais. Des droits d'auteur. Et j'étais waouh. Du coup, j'ai enlevé le livre et j'ai changé les photos. Mais c'est un truc de fou. Alors que pour moi, j'avais payé le shooting, j'avais des photos et elles m'appartenaient. Non, c'est pas le... Et donc ça, c'est important vraiment au moins de s'entendre.
Il faut s'entendre. Toutes les discussions,
c'est ça. Parce
que moi, ça m'est arrivé d'avoir une photo en particulier qui me plaisait bien, qui a été prise en Comedy Club. J'ai contacté le photographe. J'ai dit, écoute, j'aimerais l'utiliser pour une affiche, là. Au final, ça m'a coûté cher parce que l'affiche, je l'ai exploitée une fois. Mais au moins, lui, j'allais pas... Lui, il a été récompensé pour ce qu'il a fait. Il m'a donné un tarif qui était très raisonnable pour lui. Moi, je l'exploitais juste sur ça. Bon, ben, c'est vrai qu'il voulait ça à ce moment-là. Je me le suis payé. Mais si je devais la réutiliser pour un autre projet plus ambitieux ou quoi, je serais obligé, je pense, de revoir avec lui. Parce que moi, je lui ai annoncé, j'utilise pour ce projet-là.
Mais oui.
Je m'a pas dit, non, tu peux l'utiliser pour tous les jours chez toi, quoi.
Mais c'est pareil, tu fais un sketch, ça passe sur Rire et Chanson, bah, t'aimerais te payer chaque fois qu'ils utilisent son sketch parce qu'eux, ils vendent. Imagine, ouais. Ils vendent de la pub avec ton sketch et après, il y a la pub, les gens sont contents et ils t'entendent. Bah, tu veux être payé. Donc, c'est toute une économie. Et c'est vrai qu'on n'est pas assez pro encore dans le milieu du stand-up en France, mais il faut faire attention à ça et se dire que oui, il y a des droits d'auteur et que chourer des trucs, c'est pas cool. Et que voilà, il y a plein. Et surtout, il faut être réglo parce que l'intelligence artificielle, elle est là et elle est très présente. Moi, j'ai fait un site internet pour un copain. Il m'a donné, tiens, mets cette photo. Et là, il y a une entreprise en Norvège, il me semble, qui est spécialisée sur la recherche et le truc de photos utilisées sans droit. Donc, tu vois une photo d'un enfant qui renifle une fleur, tu vois des milliers de photos comme ça sur Internet, tu dis, on s'en fout, tu la prends, tu la fous sur ton site. Leur machine va voir partout dans le monde où cette photo est utilisée, ça enregistre tous les jours où cette photo a été trouvée sur le site et ils te demandent, voilà, on veut 500 balles pour ça. Et là, t'es quoi ? Et voilà, donc à faire très attention.
C'est sur ces recommandations que cet épisode s'arrête, Scott.
Faites attention, les garlings. Akeputo.
Professionnalisez-vous. Apprenez vraiment toutes ces petites choses-là qui semblent un peu rébarbatives au début, mais qui font de vous un vrai professionnel. C'est savoir connaître vos droits, savoir ce que vous avez à faire, connaître vos interlocuteurs, qui fait quoi. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir d'un coup, mais apprenez. Et si vous ne savez pas, demandez. Il n'y a pas de honte à demander, même un metteur en scène, c'est quoi ton métier ? Tu fais quoi ? Vraiment, oui. Tu veux le contraire à ça, ou un auteur qui vous approche, tu veux faire quoi pour moi, et surtout, je pense que la meilleure des choses, c'est de dire, ok, mais qu'est-ce que tu as fait avant? C'est quoi, tu veux m'aider, mais tu as aidé qui avant?
Ouais.
Et là, vous allez voir que c'est ça change beaucoup la donne.
J'ai aidé ma grand-mère. Bon, allez, bisous les darlings, on vous tient informés sur les nouveautés bientôt, quand ça sortira sur Netflix, on va voir, et le prochain épisode va être peut-être sur Chris Rock. Et Kevin Hart.
Sûr, on s'oblige à voir ça là.
Et Mike Drop Total. Allez, bisous les amis.
Ciao les amis.